Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'expertise judiciaire avec une sommité du domaine, puisqu'il s'agit de Zitom. Pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Sébastien Joria.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Zitom, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement avant tout ?
Écoutez, je m'appelle Zitom, je suis informaticien dans une école d'ingénieurs. Et en parallèle à cette activité, à cette profession d'informaticien, j'exerce l'activité d'expert judiciaire. Alors j'ai aussi d'autres activités puisque j'ai la chance d'être conseiller municipal et puis la chance aussi d'être le papa de 3 enfants.
Alors on te demandera pas conseiller municipal de quel bord ?
Oh ça me dérange
pas. Non, on fait pas,
hein.
De politique chez Nos Limites Sécu. Hein.
D'accord.
Non, on demandera pas non plus l'âge des enfants.
Non, ça c'est des informations à caractère personnel.
Alors qu'est-ce qu'un expert judiciaire ?
Alors, un expert judiciaire, c'est en fait une personne tout à fait normale qui a une simple particularité, c'est d'être inscrite dans un annuaire un peu spécial, puisque c'est l'annuaire dont les magistrats se servent pour trouver les personnes qui peuvent les aider dans leur dossier. À partir du moment où on est inscrit dans cet annuaire, on a le droit de porter le titre d'expert judiciaire.
Alors, t'es surtout connu par ton blog, Zitom. C'est à quelle occasion que tu t'es un jour décidé de faire un blog ?
Je suis d'assez près l'éducation de mes enfants, en fait, l'éducation informatique. Ils ont tous eu des ordinateurs très tôt, puisque c'est le domaine dans lequel j'ai la chance de pouvoir exercer ma passion. Et à ce titre-là, moi, j'ai toujours voulu qu'ils soient assez agiles en informatique. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi qu'ils étaient beaucoup plus agiles que moi dans un certain nombre de domaines, dans certains univers, les univers que les jeunes découvrent et que les moins jeunes subissent ou en tout cas ignorent. Et un jour, ma fille aînée est venue me voir pour me demander si elle pouvait ouvrir un blog. Bon, j'en avais entendu parler, mais voilà, je connaissais pas trop cet univers. Alors, avant de dire oui ou non, je me suis un petit peu renseigné et j'ai découvert un univers extraordinaire. Et je me suis dit, bon ben, elle peut ouvrir son blog. Alors, hein, c'était un Skyblog à l'époque. Et moi, je me suis dit, tiens, ben pourquoi pas moi. Et du coup, j'ai ouvert un blog et je suis un peu tombé dedans. J'ai découvert plein de gens très intéressants. Je suis toujours d'ailleurs beaucoup de fils RSS dans mon agrégateur. Et donc j'ai ouvert mon blog en septembre 2006.
Ça c'est quand même extraordinaire parce que ouvrir son blog à cause de sa fille qui veut en ouvrir un, c'est fou. On s'imagine que c'était plus une raison, une affaire en particulier ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est vraiment incroyable.
Enfin, la preuve en est, c'est que j'ai commencé tard. Les blogs ont démarré au début des années 2000. Et moi, en fait, j'ai découvert ça en 2006, bien après les autres.
Et ton blog, c'est pas un peu un endroit où ça te permet, dans le cadre de certaines affaires, de te vider le cerveau ou de choses comme ça ?
Alors, le blog, sur mon blog, en fait, je parle pas que d'expertise judiciaire. J'ai 4 grandes catégories de thèmes. C'est plutôt expertise judiciaire, c'est aussi sur ma découverte de l'univers politique avec mes fonctions de conseiller municipal, c'est aussi mon métier de responsable informatique et technique dans une école d'ingénieurs. Et puis la quatrième partie, c'est des anecdotes plutôt privées pour mes amis et ma famille. Donc en fait, j'écris plutôt sur moi, je donne des informations, un peu comme un tonton qui raconte des histoires le dimanche au repas. Sauf que moi, mes histoires, bah, en fait, mes proches, ils les ont entendues 10 ou 20 fois à chaque fois. Et quand j'ai ouvert le blog, j'ai dit, bah tiens, ce serait plutôt rigolo d'écrire ces histoires pour mes enfants, qui étaient jeunes à l'époque, et puis pour mes amis. Donc c'est plutôt à eux que je m'adressais au début. Et puis l'interaction, ça c'est la particularité du blog, l'interaction avec l'internaute a fait que je suis plus parti, ou en tout cas j'ai senti qu'effectivement de faire partager aux autres mes découvertes de l'univers judiciaire, ça pouvait être intéressant. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a une forme de thérapie par l'écriture dans certains dossiers qui sont un peu lourds.
Et finalement, quand est-ce que tu es devenu expert judiciaire ? Pourquoi tu es devenu expert judiciaire à l'origine ?
Alors, j'ai la chance d'avoir une épouse avocate, et un jour, quand elle débutait un peu dans son activité d'avocat, moi je travaillais pas mal avec elle, je faisais son travail de secrétariat, puisque je me suis occupé de l'informatique de son cabinet, et un jour dans un dossier, elle avait un rapport d'expert judiciaire en informatique, dont elle comprenait pas grand-chose, et donc elle est venue me demander de l'aider à comprendre ce rapport. Alors, c'était relativement simple, puisque effectivement, quand c'est un dossier dans un domaine qu'on connaît bien, donc j'ai pu lui faire un peu de pédagogie pour éclairer ses idées. Et à ce moment-là, elle m'a dit, mais tu sais, les magistrats ont besoin de personnes comme toi. Et donc elle m'a un peu incité à déposer mon dossier pour devenir expert judiciaire. Alors au début, moi je connaissais pas du tout, hein. ni l'univers juridique, ni le domaine précis de l'expertise judiciaire. Et en fait, pour me rapprocher de son métier et de son univers, je me suis dit tiens, c'est quand même une bonne solution que de partir dans cette voie-là. Et je suis tombé dedans de cette manière-là.
C'est vraiment rigolo parce que moi aussi je suis expert, mais c'est aussi les avocats, c'est les avocats qui à force de me voir m'ont dit mais écoute Hervé, tu voudrais pas devenir expert, on a besoin de gens comme toi. Donc en fait les avocats jouent un grand rôle pour le recrutement, hein, enfin visiblement au moins pour deux d'entre nous.
Ah bah même pour trois d'entre nous, parce que moi ma femme est avocate aussi, et comme je suis expert aussi, ça a été un peu elle qui m'a poussé quelque part. Donc c'est un peu comme Zitom en fait.
Alors moi je suis ni expert et ma femme n'est pas avocate. Quels sont les différents types d'expertise que vous êtes amené à couvrir ?
Alors dans mon cas, un petit peu, en fait, les magistrats qui sélectionnent qui font appel aux experts, hein, qui utilisent l'annuaire particulier sur lequel les experts sont inscrits, ces magistrats, on les retrouve dans tous les types de tribunaux. Donc, on peut être désigné dans une expertise à l'instruction, au pénal. On peut être également désigné dans des expertises au tribunal de commerce, entre entreprises quand des entreprises ont un litige qui met en jeu de l'informatique. On peut être désigné dans des affaires au civil, par exemple un particulier qui va pas être très content de son achat informatique ou de son équipement et voilà qui voudrait que on lui rende justice. Et puis il y a une autre catégorie d'expertise dans lesquelles j'ai pas mal d'activités, c'est les expertises dites privées, où là on n'est plus l'expert du magistrat, mais on est l'expert d'une des parties. On est conseiller en fait, expert conseiller auprès d'une des parties qui soit dans un procès, soit avant le procès, soit avant l'appel ou auprès des avocats. Enfin voilà.
C'est un peu une activité en fait, le privé que toute personne qui est experte dans son domaine pourrait quelque part avoir en fait.
Tout à fait. Un travail de consultant.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est un travail de consultant, mais comme tu es par ailleurs expert de justice pour de vrai, les gens préfèrent faire appel à toi pour tenter de te contredire ce que dit l'expert désigné par le juge.
Et au fait, comment est-ce qu'on devient expert ?
Alors, pour devenir expert, c'est assez facile. Toute personne qui a des compétences du fait de sa profession, en fait, on est tous un peu experts, hein, quand on aime son métier et que on essaie de le faire du mieux possible, on acquiert beaucoup d'expérience et de compétences. Si ces compétences peuvent être utiles aux magistrats, en tout cas en justice, on peut postuler pour être inscrit sur ce fameux annuaire, en fait, qui s'appelle la liste des experts près une cour d'appel. Donc pour ça, il faut déposer un dossier. C'est un dossier qu'on doit déposer avant le 1er mars de chaque année auprès du procureur de la République, de la cour d'appel. Ensuite, ce dossier va suivre tout un parcours. Et s'il est accepté, à ce moment-là, votre nom est inscrit sur cette liste. Et vous devenez expert judiciaire. Vous prêtez serment et ensuite vous êtes expert judiciaire.
Bah, il faut quand même fournir un CV, des diplômes, des preuves, avoir une expérience, passer un entretien avec un inspecteur de police, avoir un casier judiciaire vierge, mais enfin ça coule de source. Bon, des choses effectivement très très simples à avoir, mais enfin il faut quand même avoir tout ça.
Voilà, il faut monter le dossier.
Est-ce qu'il existe des experts autodidactes ?
En fait, il n'y a pas de règle précise pour devenir expert judiciaire. Les magistrats qui étudient les dossiers qui sont déposés décident en fonction de la qualité du candidat. Et cette qualité, ils la mesurent avec leurs propres outils. Donc effectivement, l'analyse d'un CV, il y a une enquête qui est faite par les services de police, mais il n'y a pas de profil type. Alors évidemment, c'est plutôt des personnes qui ont des diplômes, c'est plutôt des personnes qui sont censées être reconnues dans leur domaine. Donc ça peut être des chercheurs qui ont fait des publications, mais bon, c'est pas obligatoire. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas forcément suivi un cursus de grande école, mais qui de son activité, du fait de son activité, est compétent et jugé compétent par les magistrats et devient expert judiciaire.
N'oubliez pas que nous on parle là dans le cadre de l'informatique, mais qu'il doit exister des experts dans tous les domaines, parce que les juges ont besoin d'aide dans tous les domaines. Donc la situation est certainement très différente pour les gens qui sont experts dans d'autres domaines. Celui qui va être expert dans les bouteilles de parfum, bah, je pense qu'on vérifie ses compétences d'une manière potentiellement très différente que celui qui demande à être expert en informatique ou en Internet ou en télécom.
Bah, je suis pas sûr parce que la procédure et le processus est le même pour tout le monde en fait.
Oui, mais donc, tu n'as pas forcément un diplôme d'ingénieur en flacon de parfum, alors non. Que tu as des diplômes d'ingénieur en télécom.
C'est d'accord.
Et en informatique.
Mais tu vas avoir,
Ça veut dire qu'il y a une grande liberté pour pouvoir prouver tes compétences. Et tu peux tout à fait prouver tes compétences par autre chose que des diplômes. Au travers d'une expérience ou de témoignages, tu peux montrer que tu es parfaitement compétent dans certains domaines. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de domaines où les juges doivent avoir des experts judiciaires sans pouvoir avoir des diplômes qui correspondent, que tu peux très certes. Non mais moi je reconnais, j'ai un diplôme, mais c'est quoique il est que bac plus 4, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais tu peux utiliser de tout ce que tu veux pour montrer ta compétence.
Oui non mais je veux dire la manière dont la nomination est faite est la même pour tout le monde, que tu sois expert en crottin de chavignol ou expert en informatique, au final, tu dois prouver que t'es le meilleur dans le domaine pour être sur la liste, quoi. Donc c'est à toi de montrer patte blanche pour le faire. C'est en ce sens-là que je veux dire en fait les choses.
Alors, je pense aussi qu'il y a une part de chance. Puisque lorsqu'on dépose son dossier auprès de la cour d'appel, auprès du procureur de la République, il peut très bien y avoir une carence d'experts, et donc là les magistrats vont se dire oui effectivement on a besoin d'un expert dans tel domaine, qui est-ce qui s'est présenté, effectivement la personne est bien, elle est prise. Et puis l'année suivante vous allez avoir d'autres dossiers qui vont se présenter avec des gens qui vont être absolument magnifiques et très compétents, mais bon voilà, il n'y a pas de besoin, donc les personnes vont être refusées. Donc, déposer un dossier et être refusé, c'est absolument pas quelque chose qui doit être mal pris. La justice a besoin d'experts, et puis parfois elle a pas besoin, elle a déjà ce qu'il faut. Une dernière chose là-dessus aussi que je voudrais ajouter, c'est que finalement, moi en tant qu'expert, je ne sais pas tellement comment j'ai été recruté. C'est-à-dire que j'ai déposé un dossier, alors le dossier, effectivement, il y a un certain nombre de choses à mettre, des CV, des copies d'articles, de publications, de choses comme ça. Mais ensuite, il suit un certain parcours, ce dossier, que moi je ne connais pas. D'ailleurs, la première année, la première fois que j'ai déposé le dossier, j'ai pas été pris. L'année suivante, j'ai refait le dossier, qui était sensiblement le même, et j'ai été pris. En plus, j'ai été pris, j'avais 35 ans, ça faisait 5 ans que je travaillais après avoir eu mon doctorat. On ne peut pas dire que j'avais une expérience absolument extraordinaire, et pourtant j'ai été pris. Donc, y a un certain mystère derrière cette procédure. Aujourd'hui, c'est un peu différent dans la mesure où moi, quand j'étais choisi comme expert, quand j'étais inscrit sur la liste des experts, on était inscrit à vie. Aujourd'hui, on est inscrit pour 5 ans. Ce qui permet effectivement, à mon avis, une bien meilleure sélection des personnes, parce qu'on peut être très bon pendant un certain temps, puis au bout d'un certain temps, plus être au niveau, ou plus forcément avoir envie de travailler sur ce type de dossier. Et donc, ça fait qu'il y a un peu plus de brassage au niveau des listes.
Tu dis qu'on est appelé par le juge, mais par rapport à ça, ce serait bien d'expliquer, est-ce qu'on peut refuser la mission ou est-ce qu'on est contraint d'effectuer la mission? Parce que quand, par exemple, on est nommé sur une liste de cour d'assises en tant que particulier, on ne peut pas refuser à aller siéger aux assises. Sauf cas très exceptionnels normalement. Donc est-ce que par rapport à ça, l'expert judiciaire, quels sont ses moyens pour dire oui ou pour dire non à une demande du juge en fait?
Bon, alors quand les magistrats ont besoin de vous, ils vous désignent par une ordonnance de désignation d'expert dans laquelle ils fixent les missions, les questions auxquelles vous allez avoir à répondre. Quand on lit ces questions, soi-même en tant qu'expert, on peut très bien sentir que on va pas être capable de répondre aux questions. Je vais donner un cas très concret. Moi, je suis expert en informatique. Aujourd'hui, l'informatique est partout. Elle est dans les téléphones mobiles, les téléphones intelligents. Si un magistrat souhaite me désigner pour étudier, analyser le contenu d'un téléphone, je ne sais pas faire. Donc, je réponds au magistrat. Je ne peux pas accepter cette mission parce que je ne sais pas faire ce que vous me demandez. Une autre raison qui peut faire que on est obligé de refuser une mission, tout simplement quand on lit la désignation, si on constate que les entreprises mises en cause dans l'enquête sont des entreprises avec lesquelles vous travaillez, soit parce que c'est un de mes fournisseurs, puisque expert judiciaire c'est pas mon métier, hein, c'est une activité annexe. Donc si je me rends compte que je connais l'une ou plusieurs des parties, je dois impérativement refuser la mission. Je dois me déporter. Alors parfois d'ailleurs, on se déporte en cours de mission. On s'en rend pas forcément compte tout de suite qu'on a un conflit d'intérêts. Mais faut s'en rendre compte assez vite. Hein. La première réunion, vous vous rendez compte que y a des choses qui font que vous êtes pas vous êtes susceptible de pas être indépendant, il faut refuser tout de suite. Voilà. Un deuxième motif de refus, c'est un problème lié à l'indépendance de l'expert.
Donc c'est l'indépendance ou l'expert qui juge qu'il n'est pas compétent.
Voilà. Alors après, il peut y avoir des affaires sur lesquelles on souhaite pas travailler. Alors la clause de conscience peut jouer, mais il y a un moment aussi, il faut accepter l'émission. Donc on n'est pas désigné forcément. Moi, le volume de dossiers que je traite à l'année, ça va de 10 dossiers à zéro. Donc une année où on me propose une mission et que je la refuse parce que je me sens pas capable de la faire, ça pose pas du tout de difficulté. Par contre, si systématiquement, à chaque fois qu'on me propose une mission, je la refuse parce que ça me va pas, au bout d'un moment, les magistrats sont pas fous, ils se disent, ça c'est pas un bon expert, on va plus le missionner, et puis bah, vous disparaissez des listes comme ça, c'est ce qui est normal.
Alors actuellement, est-ce que la justice a besoin d'experts ?
Ah, ça, faut le demander aux magistrats.
D'accord.
Et ça, je pense que ça change énormément d'une cour d'appel à l'autre. Clairement, bon, moi j'ai le défaut d'être en région parisienne où il y a pléthore d'experts comparativement aux besoins, puisque c'est aussi la région dans laquelle il y a tous les services spécialisés qui vont bien en matière d'informatique. La situation quand on va dans une région excentrée où peu d'enquêteurs vont faire de déplacements et où il y a beaucoup de travail très diversifié à faire, est potentiellement assez différente. Donc je pense que la situation dépend beaucoup d'une cour d'appel à l'autre, en tout cas sur l'informatique.
Je pense que c'est pas juste la cour d'appel, je pense que c'est aussi le juge. Parce que par rapport à ce que dit Zitom, il dit que ça va de 10 à 0. Moi, je viens de faire un calcul rapide depuis le début de l'année où j'ai été nommé, hein, cette année. J'en suis à 8, en fait, ce qui, de ce que je comprends, est exceptionnel.
Alors, ah oui, c'est vraiment beaucoup pour une première année.
Il y a du pénal, il y a du civil, par les tribunaux de commerce, et je ne compte pas les privés, en fait.
Alors, en général, déjà, il n'y a que du civil, hein, à Paris, le pénal,
Ben voilà, enfin ça c'est peut-être notre avantage que comme moi pauvre provincial d'avoir des gendarmes débordés, des policiers débordés qui font que les juges d'instruction par exemple, bah, comme ils ont besoin d'avoir des informations, font plus appel à nous qu'à Paris ou effectivement à Paris avec tous les services centraux de la police. Il y a sûrement plus de capacités. Mais c'est vrai que moi, la dernière fois où j'ai discuté avec un juge d'instruction, il m'a dit que les policiers et les gendarmes, aujourd'hui, sur certaines missions, étaient à plus de 6 mois avant de commencer à travailler.
Alors, je confirme, hein, parce que de mon côté aussi, comme je suis en province, j'ai beaucoup plus d'expertise à l'instruction qu'au civil ou au commerce.
Ouais.
Et pour les mêmes raisons, hein. Les enquêteurs sont débordés et ont besoin de nous pour les aider.
Ah oui, c'est enfin bon, après.
Et alors Zitom, pour toi, qu'est-ce qui est le plus demandé par les juges ?
Alors dans mon cas, hein, je peux répondre que dans
ouais,
mon
c'est,
cas.
Oui, c'est plutôt des analyses de PC, des analyses de ce que les gens ont fait sur Internet, des recherches de documents, c'est quoi ?
Alors, à l'instruction, ce que je fais principalement au pénal, c'est beaucoup de recherches sur disque dur. Donc, les gendarmes ou les policiers m'amènent à la maison un CD et j'ai pour mission du juge d'instruction de rechercher. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches d'images pédopornographiques ou de films pédopornographiques, beaucoup aussi de recherches de documents de telle ou telle sorte qui contiennent telle ou telle information. En rapport avec leur enquête. Par contre, au commerce, très souvent, c'est une informatisation ratée avec le triangle infernal. L'entreprise qui cherchait à s'informatiser ou à se réinformatiser. La société de service qui faisait la prestation et l'éditeur logiciel qui devait être installé par la société de service dans l'entreprise. Pour une raison X ou Y, ça ne fonctionne pas, et l'entreprise est en difficulté, et tout ça va en justice, et le magistrat a besoin de savoir un petit peu qui a fait quoi, et quels sont les torts, les responsabilités des uns des autres.
Et concernant ces affaires que tu évoquais sur les recherches dans le disque dur, etc., tu rentres un peu dans la vie intime des gens, en fait. Tu le vis bien, tu dors bien.
Alors, ça, c'est la partie la plus difficile. Chaque expert vit ça à sa manière. Moi, je vis pas ça très bien. Alors, c'est vrai que le blog m'a permis de faire une petite une sorte de thérapie par l'écriture, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas d'évacuer par l'écriture ce mal-être. Je suis quelqu'un d'assez sensible à ça. Je suis pas très endurci. Alors c'est vrai que quand je lis des blogs de policiers, des blogs de pompiers, des médecins ou des urgentistes, je me rends compte que effectivement je suis assez sensible parce que finalement parcourir des images sur un disque dur, c'est pas si dramatique que ça. Mais moi je le vis avec difficulté, surtout que j'ai commencé, j'avais 35 ans, mes enfants étaient tout petits, j'étais absolument pas préparé au choc qui consiste à regarder des vidéos de ce type-là. Donc oui, c'est assez difficile.
Alors, quels outils tu utilises dans tes investigations?
La justice est assez pauvre, hein. La justice n'a pas de moyens. On le dit, on le lit, les magistrats le disent, les avocats aussi, mais les experts judiciaires le constatent. Vous êtes expert judiciaire en informatique, personne ne vous donnera quelque outil que ce soit. Vous vous débrouillez. Donc, j'utilise beaucoup d'outils open source. Pour les analyses, j'utilise The Slot Kit, hein, TSK, avec son interface graphique Autopsy, qui est un produit gratuit mais extrêmement performant. J'utilise aussi Ancase, qui est un produit professionnel, mais là, qui est payant, hein, qui coûte environ 3000 euros. Et ces 3000 euros, ben, c'est moi qui les ai sortis de ma poche. Ils n'ont jamais été remboursés.
Et tu n'utilises pas Cellbrite ou XRI pour tout ce qui est téléphone, ordiphone, tablette?
Non, il a dit qu'il ne faisait pas, en fait.
Moi, je ne me suis pas du tout équipé pour l'analyse des téléphones. Pour des raisons financières, mais surtout pour des raisons de compétences. Je n'ai aucune compétence en analyse de téléphone. Et j'ai pas je souhaite pas acquérir ces connaissances.
Ce que l'on peut aussi rajouter pour nos auditeurs, et c'est que officiellement, normalement, lorsqu'on a une ordonnance d'expertise, c'est 460 euros à la base.
Oui.
Donc une investigation théorique, c'est 460 euros. Alors bien sûr, on peut toujours aller plus loin. Ça nécessite de la part du, en termes de pénal, je veux dire, hein, en termes de pénal, ça nécessite quand même une autorisation du juge et du parquet, en fait. Mais ça, que les auditeurs se représentent un petit peu ce que ça peut faire, comme ils sont tous entre guillemets ou majoritairement dans l'informatique, ils savent que 460 euros, ça représente pas grand-chose en termes de temps de consultant, en fait.
C'est pour ça, on a la chance à Paris de pas faire de pénal. Et donc, nous, on fait pas du tout ce que fait Zitom. Donc,
on vous remercie en province de pas le faire.
Et effectivement, au civil, pour les auditeurs, au civil, vous avez deux parties qui sont pas d'accord l'une avec l'autre. Eh bien, si pour éclairer le juge, il faut mettre 10 000 euros, tant que les deux parties ont pas mis 5 000 euros dans la cagnotte, l'expert désigné par juge, il commence pas à travailler. Et donc, quand il travaille, il sait qu'il peut consommer au moins jusqu'à 10 000 euros qui a déjà été mis par les deux parties dans la cagnotte. Donc, on n'est pas du tout dans la même situation que le pénal, où là, c'est la justice, donc la société, qui paye 460 euros au départ.
Oui, ça, c'est l'avantage du civil et le fait qu'au niveau civil, on est sûr d'être payé avant, plus rapidement que dans le pénal. Justement, il y a quelques petits bruits qui circulent dans le métier, comme quoi, déjà ça paye mal et en plus ça paye tard en fait l'expertise pénale.
Sincèrement, je pense qu'il faut, si dans les auditeurs il y a des personnes qui souhaitent un jour travailler avec la justice en devenant expert judiciaire. Il faut quand même savoir que il faut pas avoir comme objectif de vouloir faire fortune en faisant ça. C'est vraiment une activité parallèle à votre métier. Votre métier vous nourrit, vous permet de vivre, d'avoir une belle carrière professionnelle. Mais vous prêtez, j'ai failli dire vous offrez vos compétences à la justice qui en a besoin pour traiter ses dossiers. Dans les outils que j'utilise, il y a pas mal d'outils open source. pas seulement parce qu'ils sont gratuits, mais aussi parce qu'ils sont à la pointe. Moi, j'utilise beaucoup une distribution Linux qui s'appelle Deft, qui est un live CD qui permet de mener pas mal d'investigations. Après, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui connaissent ces outils, qui permettent de tous les outils qui permettent de craquer les mots de passe quand on a oublié son mot de passe, comme Offcrack par exemple. Et puis après, pour retrouver des bouts de fichiers, des bouts d'images sur les disques durs, je vous recommande un outil excellent qui s'appelle Photorec. Et pas seulement parce que son concepteur est français, mais parce que c'est vraiment un très très bon produit.
Et est-ce que tu utilises DFF ?
Alors, je connais DFF, mais je l'utilise pas. En tout cas, je l'ai pas encore utilisé. Je fais quelques essais avec, mais pour l'instant, j'ai pas eu à l'utiliser.
Tu n'as pas eu à l'utiliser parce que Autopsy et le Slurkit te convient, ou parce que tu l'as regardé et tu penses qu'il n'est pas au niveau? Enfin, est-ce que tu as un jugement aujourd'hui dessus?
Non, j'ai pas de jugement. En fait, c'est moi, je procède de la manière suivante. Au moment où je suis désigné, je regarde le dossier. Si c'est un dossier dans lequel je sens que je vais pouvoir amener des lumières intéressantes au magistrat, je l'accepte. Et à ce moment-là, je me mets à niveau. Donc, je regarde tout ce qui se fait dans le domaine. Je vais prendre un exemple concret. On me donne un ordinateur à analyser. En général, d'ailleurs, on me dit pas quel type d'ordinateur c'est. On me dit simplement que c'est un ordinateur. On donne très peu d'éléments techniques. Et puis, quand le gendarme ou le policier arrive avec le scellé, je me rends compte que c'est un Macintosh. C'est très bien. Sauf que moi, je suis plutôt habitué dans ma profession, hein, dans l'école d'ingénieur, à manipuler des ordinateurs de type PC sous Windows ou sous Linux. Bon, mais en soi, ça me pose pas de problème de me mettre à niveau. Je vais passer des heures, des week-ends, des soirées, des nuits à me documenter, à regarder, à tester, à aller voir des amis, à me faire prêter du matériel pour me mettre à niveau sur quel est l'OS. Quelle est la version de l'OS en cours, quels sont les outils qui peuvent être spécifiques à ce type d'ordinateur. Et puis, une fois que je suis à niveau, là, j'utilise des outils. J'utilise Internet, évidemment, pour savoir quels sont les outils. Il y a des listes de diffusion qui sont réservées aux experts judiciaires et qui nous permettent d'échanger entre nous les trucs et astuces pour justement aller vers les outils appropriés. Quand ils sont pas open source, je les achète et je joue avec, jusqu'à ce que je puisse travailler sérieusement sur la mission qu'on m'a donnée. Et je ne facture évidemment au magistrat que le temps productif après remise à niveau.
Alors, quels sont les problèmes auxquels un expert judiciaire est confronté? Par exemple, est-ce que tu rencontres des problèmes techniques, un petit peu comme ce que tu viens d'évoquer?
Ah oui, est-ce que tu as des disques chiffrés que t'as pas su décrypter?
Oui, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, c'était un Macintosh qui était entièrement chiffré. J'en ai parlé sur le blog parce que, pour l'anecdote, le magistrat me demandait de prouver l'existence d'un certain fichier qui portait un certain nom. Donc, quand j'ai commencé à mener l'analyse, je me suis rendu compte que le disque dur était entièrement chiffré. Donc, à ce moment-là, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. S'il est impossible de déchiffrer un disque dur, moi, je ne peux pas mener ma mission. Donc, je rédige un rapport rapide au magistrat dans lequel j'explique que, du fait du chiffrement, je ne peux pas mener à bien ma mission. Et il se trouve que là, dans ce dossier, la mémoire cache, hein, la mémoire qui sert à sauvegarder les données de l'ordinateur, comme c'est un portable, quand il entrait en mode d'hibernation, Et bien cette mémoire, cette zone du disque n'était pas chiffrée. Et il se trouve que dans cette zone non chiffrée, on pouvait prouver l'existence du nom de fichier en question. Donc j'étais ravi, parce que j'ai pu mener à bien la mission indirectement.
Mais est-ce que dans ce genre de situation, tu peux le signaler au juge de manière à ce que lui essaye de voir s'il peut pas demander au prévenu le mot de passe?
Alors, oui, bien sûr. C'est la première chose qu'on fait, hein, de toute manière, quand on a un disque dur chiffré, c'est d'essayer d'obtenir les mots de passe. Pour obtenir les mots de passe, il y a plein de solutions possibles. La première, c'est de les deviner, hein, avec des logiciels qui permettent de faire soit de la brute force, soit d'utiliser des failles. Parce que là, on a la chance d'avoir l'ordinateur, donc on peut utiliser des attaques relativement connues pour obtenir les mots de passe. On peut demander les mots de passe au propriétaire de l'ordinateur, en tout cas à l'utilisateur. Il peut d'ailleurs refuser de les donner, hein. En tout cas, tous les prévenus, enfin tous les propriétaires d'ordinateurs ne donnent pas forcément leur mot de passe. Et les mots de passe, on peut les retrouver indirectement, tout simplement dans les boîtes mail. La plupart des gens utilisent un nombre de mots de passe ou toujours formés de la même manière. Comme il y a encore beaucoup de sites internet, quand vous créez un compte qui vous l'envoie assez bêtement par mail en clair, en vous disant merci d'avoir créé ce compte, je vous rappelle vos identifiants et votre mot de passe. En tant qu'expert judiciaire, il suffit de retrouver tous les mails contenant la chaîne de caractères mot de passe ou password, et puis on retrouve une collection de mots de passe qu'on n'a plus qu'à tester pour voir si c'est le sésame vers le déchiffrement du disque dur.
Est-ce que parfois, donc comme Hervé l'évoquait, tu as pu rencontrer des problématiques liées au chiffrement. Est-ce que tu peux rencontrer d'autres problématiques techniques comme ça?
Là pour le coup, je raconte plein d'anecdotes sur le blog. Il y en a quelques-unes qui me viennent à l'esprit. Je me suis retrouvé dans une entreprise qui avait fait faillite à l'explosion de la bulle Internet. J'étais tout seul dans cette entreprise. J'avais demandé au liquidateur judiciaire d'ouvrir la porte. Donc il m'a ouvert la porte, il m'a laissé entrer. Et puis il fallait que j'analyse tous les ordinateurs présents dans l'entreprise pour récupérer des données pour les clients de cette entreprise en fait. Et la première chose, déjà, il n'y avait plus d'électricité. Donc ça, c'est un vrai problème technique quand vous devez analyser des ordinateurs qui n'y a plus du tout d'électricité et que le compteur est fermé et que l'abonnement est coupé. L'expertise, j'avais fait 200 km pour aller dans cette entreprise. Je suis resté 10 minutes, je suis reparti et je suis revenu le mois suivant quand l'électricité avait été remise. D'ailleurs, dans cette même expertise, l'administrateur réseau qui devait, à mon avis, se douter qu'il allait y avoir des clients qui voudraient récupérer ces données, avait saboté son réseau en modifiant le câblage des serveurs. Et donc, il m'avait fallu deviner comment les câbles étaient installés. À mon âge, j'ai connu les câbles BNC avec des terminaisons, des résistances en bout de câble. Donc c'était un câblage de ce type-là et toutes les résistances avaient été enlevées. Les câbles avaient été branchés directement sur les prises BNC sans T. Enfin bon, là je m'adresse aux vieux auditeurs. Une problématique technique qui me revient à l'esprit. Un autre exemple qui peut aussi être amusant, on m'a amené un scellé. Alors le gendarme me prévient, me dit Zitom, on a un scellé à faire examiner tout de suite. Donc on vous contacte parce que on sait que vous pouvez répondre dans la journée. On vient juste de le récupérer et il faudrait l'analyser très vite. Alors en général très vite, c'est du fait du manque de ressources de la justice, c'est plutôt en moi que ça se... Mais là, le gendarme a insisté en disant qu'il fallait vraiment que ce soit le jour même. Donc j'ai dit oui, on a donné rendez-vous en fin de journée quand j'ai débauché. Et je vois le gendarme arriver avec un portable dans une caisse en plastique. La caisse était pleine d'eau. L'eau était plutôt trouble. Et je demande, mais pourquoi l'ordinateur est... Mais écoutez, c'est un ordinateur qu'on vient de récupérer dans le fleuve voisin. Et la procédure, c'est de pas le sortir de l'eau. Parce que si on le sort de l'eau, il va rouiller tout de suite. Et s'il rouille, vous pourrez pas le faire démarrer. Donc on vous l'amène encore dans l'eau. Et débrouillez-vous.
T'as réussi à le réanimer ?
Non. Par contre, j'ai fait faire un devis pour une analyse en salle blanche et en fait le devis était trop élevé, donc le scellé a pas été exploité.
Et est-ce que t'as été confronté à des avocats qui, pour défendre leurs clients, jouent à l'avocat et comment tu supportes les avocats dans les réunions d'expertise, qui jouent à l'acteur, qui ment effrontément, enfin, t'as eu ça, les avocats
Des avocats qui mentent, j'en ai jamais eu. Hein, j'ai toujours eu des avocats qui défendaient le point de vue de leurs clients. Alors, c'est parfois un peu alambiqué, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, j'ai pas d'ennemis directs, en tout cas en début d'expertise, en début de réunion. Je laisse les gens s'exprimer. La tension est très forte en début de réunion parce que les parties sont à bout, sont opposées, effectivement, il y en a qui sont là pour mettre de l'huile sur le feu. Donc moi, je suis là pour écouter les gens, le faire dans la plus grande sérénité possible. Donc j'utilise des techniques un peu classiques en management de réunions de crise qui permettent déjà d'écouter tout le monde, les avocats plus que les autres, parce qu'ils sont là justement pour montrer un point de vue et un éclairage qui n'est pas forcément l'éclairage du technicien que je suis, et c'est justement toujours des points de vue très intéressants. Alors les choses se compliquent un peu en cours de réunion ou lors de la réunion suivante, parce que au bout d'un moment, en tant qu'expert, il faut quand même que je peux pas juste écouter tout le monde, je suis là aussi pour donner mon avis, et cet avis je le donne par écrit, mais j'ai pour habitude de le donner en cours de réunion. Et forcément, à ce moment-là, si je penche plutôt pour l'une des parties que pour l'autre, l'autre va commencer à être un peu moins calme. Mais ça fait partie de la gestion de la réunion. Alors je peux ajouter une chose, c'est que professionnellement, mon métier, c'est responsable informatique et technique dans une école d'ingénieurs. Je gère du matériel, des problèmes, du réseau, de la technique informatique, mais pas que, et je gère aussi des utilisateurs, des clients, beaucoup, hein, puisqu'il y a plus de 1000 étudiants dans l'école. Le fait d'apprendre à mener des réunions d'expertise où la tension est importante, où les enjeux sont importants, m'apprend beaucoup pour mon métier de responsable informatique. J'ai aussi parfois, et ça arrive, je pense, tous les informaticiens qui nous écoutent se retrouveront dans ce cas-là, ça arrive parfois d'avoir des réunions un peu houleuses où les utilisateurs sont pas contents, ou d'avoir à gérer une situation de crise, une salle serveur en rade. Et le fait de faire des expertises judiciaires m'a appris énormément de choses sur cette gestion de crise. Autre chose aussi que j'ai appris, c'est à force de voir en réunion d'expertise tous les problèmes qui peuvent arriver aux entreprises, aux particuliers en informatique, avec parfois des mauvaises pratiques, des erreurs flagrantes, ça m'apprend énormément, évidemment, dans mon métier pour éviter de reproduire ces erreurs.
Alors, tout à l'heure, tu parlais de méthodes de gestion de crise ou de techniques. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est des méthodes que tu as acquises par expérience ou tu t'es appuyé sur des choses qui existent?
Alors, j'ai la chance dans mon entreprise de pouvoir suivre des formations et j'ai choisi un organisme qui s'appelle GERM, qui est un organisme qui apprend le management. Moi, j'ai appris beaucoup par ma formation initiale et je continue d'apprendre, puisque finalement, on apprend toute sa vie, dans le domaine technique. Si on veut rester un petit peu à flot, il faut en permanence se tenir au courant. Donc, je fais beaucoup de veille technique, mais il y a quelque chose que je n'avais jamais maîtrisé, et en tout cas, on m'avait jamais formé à ça, c'était bien le management. Donc, je suis depuis déjà 4 ans une formation, un cycle de formation sur le management, et dans ces formations, il y a pas mal de choses sur la gestion de crise.
Alors, est-ce que l'expertise judiciaire est un, on peut pas parler d'un métier puisque c'est une activité annexe, est-ce que c'est quelque chose de passionnant ?
C'est passionnant. En fait, c'est plus que l'expertise judiciaire, c'est le monde judiciaire est passionnant, méconnu et passionnant. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'univers de la recherche. Je suis passionné très tôt. Je me suis passionné très tôt pour l'informatique. J'ai travaillé dans l'intelligence artificielle. J'ai eu la chance de pouvoir toujours choisir par passion les activités que je pratique. Je travaille dans une école d'ingénieurs extrêmement dynamique, je fais un métier passionnant, et l'univers de la justice que j'ai découvert grâce à mon épouse avocate est un univers passionnant, extraordinaire, au sens vraiment hors norme. J'invite tous nos auditeurs à assister à un procès, à rentrer, à pousser la porte d'une cour d'assises. C'est à la fois terrible et fantastique de pouvoir participer aux enquêtes, de pouvoir aider un policier, un magistrat instructeur à avancer dans son enquête en découvrant des preuves. C'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous êtes confronté je parlais tout à l'heure d'une réunion d'expertise au commerce avec des entreprises qui s'entre-déchirent. Quand on vous demande votre avis, puisque c'est ça l'expertise judiciaire dans ce cas-là, on vous demande de donner votre avis. Mais c'est quelque chose à la fois de passionnant, de difficile, dans lequel il faut placer. On a une responsabilité parfois très 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 grande. On n'est pas juge. Ça, c'est ce qui moi me rassure à chaque fois. Évidemment, j'ai pas envie de me tromper. Je fais tout pour éviter de me tromper. Mais je ne prends pas la décision, je ne juge pas, je suis là pour donner un avis, et ça c'est passionnant.
Bien dit Tom, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode.
Merci à vous, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés.
Tu peux peut-être rappeler l'adresse de ton blog ?
Ah oui, alors c'est facile, Zytom, zytom.blogspot.fr.
On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut!
Au revoir!